répondit pas, se leva, et quitta la pièce sous le regard suspicieux des deux hommes. Elle revint quelques instants plus tard avec deux bouts de bois dans les mains, fouilla de nouveau dans sa besace, et en sortit la trousse de Luc, puis toujours sans rien dire, elle commença à tailler le bois à l'aide de ses vieux et magnifiques couteaux. Captivée, Andreas la regarda faire un moment, songeant sans doute que la jeune fille avait bien plus de ressources qu'on ne pouvait le deviner. Puis il entreprit d'accorder l'instrument, ce qui, comme il l'avait craint, se révéla fort complexe. De temps à autre, il s'arrêtait pour voir où en était Alice dans sa sculpture, lui donnant quelques conseils sur la forme qu'elle devait donner à ses mesrabes, afin qu'ils fussent efficaces. Pendant tout le temps que dura cette étonnante préparation, Robin resta muet, presque interdit, assis par terre à les regarder l'un et l'autre, se demandant lequel était le plus farfelu des deux. Quand Alice eut terminé, elle apporta fièrement les deux petits marteaux de bois à l'apothicaire, qui était en train de resserrer les dernières chevilles. Andreas, admiratif, prit les mesrabes dans ses mains, les soupesa, les garda un moment suspendus en l'air, ferma les yeux. Puis, avec une infinie délicatesse, il commença à jouer. Alice, les yeux humides et grands ouverts, fit quelques pas en arrière, s'assit à côté de l'apprenti sans jamais quitter Andreas du regard, et ensemble, ils écoutèrent, ébahis, la prestation du maître. Alors ce fut comme si plusieurs musiciens s'étaient lancés dans un riche échange d'harmonie. Les cordes frappées ensemble ou les unes après les autres résonnaient longtemps, formant des accords ouverts qui se superposaient avec élégance, vibraient d'octave en octave par la magie de ce phénomène qu'on appelle sympathie. Et alors il s'en dégageait une grâce céleste. La mélodie, douce et savante, était empreinte d'une profonde mélancolie et semblait raconter une histoire triste et belle à la fois, une histoire d'amour, indubitablement. Quand Andreas termina le morceau, s'ensuivit un long et magnifique silence, pendant lequel l'apothicaire lui-même se surprit à laisser paraître quelque émotion sur son visage d'habitude si secret. L'instant d'après, sa figure se referma, et avec autant de brusquerie qu'il avait mis de douceur à en jouer, il prit l'instrument dans ses mains, se releva et le rendit à Alice. « C'est un très bel instrument, » dit-il comme pour mettre un terme définitif à cet instant si particulier. « C'était magnifique, vous. Vous m'apprendrez ?»«
Nous verrons, » répondit sèchement Andreas.
Il y avait dans sa voix et son regard une tonalité que même Robin n'y avait jamais vue.
« Où avez-vous appris à jouer comme ça ?»
insista la jeune fille.
« C'est une longue histoire. »«
Eh bien, racontez-la. »«
Pas ce soir, » répliqua l'apothicaire d'un air agacé. « Il est tard. »«
Allons, il faut dormir maintenant. Range tes affaires. »« Robin, c'est toi qui monteras la garde le premier. »
Sans dire un mot de plus, il partit s'allonger sur la couche de paille, leur tourna le dos et ferma les yeux. En ce moment précis, le manque de diacode lui pesa plus terriblement encore qu'il ne l'eût fait en d'autres circonstances, et il lui fallut bien du courage pour masquer aux deux autres les tremblements qui gagnèrent ses mains, jusqu'à ce que, beaucoup plus tard, le sommeil vint enfin. Chapitre 106. La grande et longue barque, secouée par les remous de la Seine, s'approcha rapidement de la rive, à quelques pas du petit pont. Dans le ciel de Paris virevoltaient des petits pétales de fleurs blanches et roses que le vent printanier arrachait aux cimes des arbres. Les bruits de la ville animée étaient ici couverts par celui de l'eau et des bateaux. Avec le retour des beaux jours, les Parisiens aisés étaient de plus en plus nombreux à venir se promener sur le fleuve et on assistait sur la Seine à un véritable ballet aquatique. L'échevin Étienne Bourdon, qui attendait sur les quais depuis un long moment déjà, monta à l'intérieur de l'embarcation, salua respectueusement le frère du roi et s'installa sur le banc en face de lui. Aussitôt, le comte de Valois demanda à ses hommes de ramer vers le large afin d'y chercher un peu de quiétude.
« Dites-moi, Étienne, que vous l'avez trouvé. »«
Oui, prince. Ou plutôt, nous avons retrouvé sa piste. »«
À la bonne heure, dites-moi tout. »
La Nubienne est donc bien une ancienne prostituée qui racolait rue Quincampoix entre les années